Voilà, alors ce matin, vous pouvez bien imaginer que nous allons poursuivre notre série de messages dans les Actes avec bien sûr le lien à la Pentecôte. En fait, j'ai fait toute cette série pour arriver là. Non. Non. Non, mais c'est clairement évident que nous avons besoin. Pour passer des paroles aux actes, nous avons besoin du Saint-Esprit. Il est le moteur, il est la présence et l'action de Dieu dans notre vie quotidienne. Alors ce matin, nous allons en fait terminer cette série avec cette réalité que le Saint-Esprit est à la base de l'action des disciples. Sans lui, on ne peut rien faire, c'est sûr. Et puis on a vu donc dans cette série de nombreux outils, mais pour qu'ils soient actionnés, le prérequis, c'est le Saint-Esprit dans notre vie. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut oublier tout ce qu'on a dit, hein, d'accord? Mais en fait, la base, elle est là. C'est un peu comme certaines fonctions d'un programme d'ordinateur. Je pense que tout le monde, presque aujourd'hui, est une fois ou l'autre devant un ordinateur. Puis moi, il y a des fonctions, je ne sais toujours pas pour quelle raison, quand j'utilise. Moi, je suis, on va dire, un bon utilisateur, mais je ne suis pas du tout informaticien, d'accord? J'utilise souvent l'ordinateur. Il y a toujours plein de choses que je ne comprends pas, mais on fait avec, hein? Vous êtes d'accord? Peut-être vous êtes comme moi. On s'accommode des choses qu'on ne comprend pas, puis on continue à utiliser. Puis il y a des fois des programmes de base où il y a des fonctions qui sont grisées dans le menu. Un petit peu comme ceci, vous voyez, il y a des choses qui sont grisées, puis d'autres qui sont en gras. Alors on voit que c'est écrit quelque chose, puis là, moi souvent je suis là, mais j'aimerais copier ce truc, pourquoi je ne peux pas le copier? Puis c'est grisé, voilà, ou j'aimerais supprimer ce. Mais non, je ne peux pas, et je ne sais pas pourquoi. Ça ne marche pas. Ou bien peut-être certains geeks font plein de jeux vidéo, ce n'est pas du tout mon cas parce que je n'ai pas baigné là-dedans, alors je suis un très mauvais joueur de jeux vidéo, mais je crois savoir qu'il y a quand même des niveaux qui se débloquent selon où on est arrivé, ou selon notre nombre de points, etc., etc. Donc il y a des choses qui sont verrouillées. Mais je crois que dans nos vies, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous permettre de libérer certaines fonctions, certaines choses qui nous donnent, comme l'amour, la passion, l'audace, l'écoute, l'obéissance, toutes des choses qu'on a vues. Mais pour que ce soit libéré, c'est le Saint-Esprit qui libère ça. Et dans cette série de messages, loin de nous l'idée de vous dire, mais débrouillez-vous, mais il faut être passionné. Il faut être des chrétiens passionnés, mais faites ce que vous voulez, mais soyez passionnés. C'était pas ça l'idée. C'était pas non plus l'idée de vous dire, il faut aimer votre prochain, puis débrouillez-vous. Allez-y, aimez-vous. S'il vous plaît, faites un effort. Dites-vous bonjour au moins. Non, ce n'est pas ça non plus qu'on a essayé de vous dire dans cette série. C'est possible, tout ça est possible par l'activation du Saint-Esprit dans nos vies. Mais cela n'enlève pas toutefois le fait que nous avons des choix à faire et que nous devons renoncer à certaines manières de faire, à certains schémas de pensée, et qu'une fois la fonction libérée dans le menu déroulant, eh ben, il faut quand même appuyer dessus, hein. C'est une image, d'accord? Une image. Ok. Le Saint-Esprit n'est pas un menu déroulant, d'accord? C'est une image. Personne vient me dire ça à la fin. Je suis un peu choqué, comment t'as parlé du Saint-Esprit? S'il vous plaît, c'est une image. D'accord? Mais voilà, des fois, il libère des choses et puis on doit l'actionner dans nos vies. Mais ce qui est sûr, c'est que le changement, il est radical. Et c'est ce changement qu'on a observé, qu'on observe dans la vie des disciples. Il est dû au revêtement du Saint-Esprit à la Pentecôte. Il n'y a pas d'autre explication plausible. Il y en a qui ont essayé de dire, mais c'est juste parce qu'ils ont compris la résurrection. Et puis non, c'est l'action du Saint-Esprit dans leur vie qui a fait qu'un Pierre est sorti de son retrait, est sorti de sa culpabilité, peut-être même qu'il est sorti d'une forme d'égocentrisme. Hein, vous vous souvenez les petites compétitions qu'il y avait des fois entre les disciples, etc. Parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Il est devenu cet homme plein d'assurance, passionné, audacieux, libéré dans ses craintes à cause de l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Amen. Alors, mon premier point ce matin, c'est être rempli de l'Esprit nous responsabilise et nous équipe pour le service. Et j'aimerais commencer par redire ceci, redire que la transformation, en fait, n'est pas une fin en soi. La transformation que l'Esprit a opérée dans la vie de Pierre, mais dans un tas d'autres, et que le Saint-Esprit opère dans notre propre vie, va nous mettre face à la responsabilité de notre appel et de notre réponse à la mission que Jésus nous a donnée, qui est évidemment celle d'aller et d'être des témoins dans le monde, faire des disciples. Alors on peut voir dans la vie de plusieurs leaders que la transformation, en fait, elle faisait partie du processus, mais c'est toujours l'appel qui est visé. Par exemple, la vie de Moïse a été transformée au moment de la rencontre dans ce buisson en feu, à travers ce buisson en feu, donc il rencontre Dieu, il y a une transformation, vous connaissez certainement assez bien l'histoire, Moïse qui a tourné en rond là dans son désert après avoir fui l'Égypte. Donc là il y a une rencontre puissante avec Dieu, mais le but de Dieu n'était pas d'abord de guérir le cœur de Moïse pour lui donner de l'assurance dans son leadership avec son troupeau de moutons, pour qu'il assure mieux avec les moutons de son beau-père. Ce n'était pas ça que Dieu a voulu faire. Ce que Dieu avait sur son cœur, c'était cette parole « Maintenant, va, je t'envoie auprès du Pharaon. » Donc, il y a un moment de rencontre avec Dieu, un moment d'équipement. Oui, il y a des choses qui se passent dans la vie de Moïse, mais le but de Dieu, c'est de l'amener là. De la même manière dont, si on prend l'exemple d'Ésaïe, vous connaissez bien cette vision qu'il reçoit dans le temple en Ésaïe 6, ça va changer son regard. Ça va le purifier. Il y a une certaine crainte de Dieu au départ, et puis il y a cette question, même Dieu va purifier sa langue, et puis il y a cette question de Dieu qui va lui dire « Mais qui enverrai-je ?» Et puis il va répondre « Me voici ». Et au verset 6-9, Dieu lui dit « Va et dis à ce peuple ». Donc cette rencontre avec Dieu, de nouveau, elle a une influence. Lui, il avait peur, il ne voulait pas, quelque part, mais après ça, cette transformation a le but de le faire aller. Et puis, on peut encore prendre Saul, à son tour, qui va rencontrer Jésus d'une manière surnaturelle sur le chemin de Damas. Il est ébloui par une grande lumière, il entend une voix des cieux. Et suite à cette rencontre, Saul, le persécuteur des chrétiens, devient Paul l'apôtre. Et Jésus va lui dire au travers de la bouche d'Ananias en Actes 9:15, « Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Donc il y avait un but. Ce n'était pas juste simplement « Ben voilà, je vais transformer Saul et puis voilà, il sera un gars bien. » Non, il y avait un but derrière ça. Donc ce sont des rencontres qui ont changé la vie d'homme, desquelles ont découlé un appel précis. Et cette rencontre puissante avec le Saint-Esprit de Dieu à la Pentecôte, elle aussi a un lien à l'appel que Jésus a donné aux disciples. Cet verset que vous connaissez tellement bien, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Donc la transformation qu'opère le Saint-Esprit a pour but le service. Et c'est important de le redire et de le redire et de le redire. C'est pas parce qu'on a tendance à l'oublier, des fois on court après la transformation, après l'onction, mais on n'est pas en fait prêt à prendre les responsabilités face à la mission qui est la nôtre, face à l'appel qui est le nôtre. Et je sais que Jean-Jacques a parlé sur l'appel la semaine dernière, mais on doit prendre nos responsabilités face à cet appel-là. Et le Saint-Esprit est là pour nous équiper. C'est pas juste pour nous faire du bien. Oui, il va nous faire du bien. Mais on n'est pas en train de courir après des moments de petits, comme on aime bien dire, des petits guili-guili, d'accord ? Le Saint-Esprit nous est donné pour quelque chose, pour aller. Le baptême de l'Esprit, c'est recevoir un équipement en vue du service, c'est un équipement de puissance pour parler, pour passer des paroles aux actes. Amen ? Vous êtes encore là ? Ok. Il est aussi intéressant de relever que Jésus lui-même a été baptisé de l'Esprit avant d'entrer pleinement dans son ministère. Donc ça montre combien c'est important. Jésus qui a passé en tout point là où on doit passer. Il a passé par le baptême d'eau, mais il a aussi reçu l'équipement de l'Esprit. Et en Luc 4:1, nous pouvons dire « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. » Donc il était baptisé au Jourdain. Vous vous souvenez, il y a le ciel qui s'est ouvert, il y a une parole de Dieu. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, auquel j'ai mis toute mon affection. » Et puis après ça, il y a vraiment cette colombe. Et puis ensuite, il repart du Jourdain, il est rempli de l'Esprit. Et un petit peu plus loin, en Luc 4,14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Donc à partir de là, sa renommée s'est répandue. À partir de là, son ministère a réellement commencé. Et puis un tout petit peu plus loin, alors qu'il est à Nazareth dans la synagogue, il s'approprie cette parole, cette prophétie d'Ésaïe, Luc 4, 18-19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Donc on le voit encore une fois ici clairement, l'Esprit qui est sur lui est là pour l'accomplissement de son ministère. Il quitte le Jourdain rempli de l'Esprit, il va en Galilée, revêtu de la puissance de l'Esprit, et puis il reconnaît qu'il est oint pour accomplir cette mission qu'elle a. C'est comme son énoncé de mission ici. Alors la Pentecôte s'inscrit dans ce même but. L'onction qui était sur Jésus pour accomplir son ministère sur la terre a été transmise aux disciples pour qu'ils puissent poursuivre son ministère. Et puis ça, je vous avais dit, c'était un thème qui est présent dans tout Luc et Actes. C'est un thème majeur, c'est cette transmission. Et le théologien Roger Strandstad, il a dit ceci, « Le récit de la Pentecôte est l'histoire de la transmission de l'esprit charismatique de Jésus aux disciples. Les disciples sont les héritiers et successeurs du ministère charismatique terrestre de Jésus. » Donc, les disciples, eux, ils avaient bien compris cette dimension-là, cette transmission. Et puis Pierre, c'est le verset que j'ai mis sur le feuillet, Pierre dira dans son discours, juste après la Pentecôte, il va dire « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendu. » Et l'entendez. Donc il a bien compris que c'est l'Esprit que Jésus avait reçu et que monté au ciel, il a choisi de le répandre. Ils avaient bien saisi ce que Jésus répand, ce qu'il a reçu lui-même d'abord. Les disciples donc ne pouvaient pas passer aux actes sans l'Esprit Saint, et puis je l'ai dit, nous non plus. Nous devons être convaincus ce matin que nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit de Dieu. Mais je crois qu'on s'en rend assez bien compte, je n'ai pas pour vous, mais en tout cas, moi, chaque fois que j'essaye par mes propres efforts, ça ne va pas longtemps, ça ne va pas loin. Et puis, j'en ressors fatigué et découragé. Vous avez déjà fait l'expérience, hein, que ça ne marche pas quand on essaye par nous-mêmes. Alors, si nous désirons vivre les actes, moi, j'ai envie que ce matin, nous puissions crier ensemble notre besoin d'être remplis de l'Esprit. On a besoin d'être remplis de l'Esprit encore et encore. Et je vais prendre un exemple très terre-à-terre, c'est un petit peu comme une citerne à mazout. Est-ce qu'il y en a qui chauffent encore au mazout? Ok, je ne suis pas là pour faire aucun jugement, d'accord, hein. Elles sont bien ces énergies fossiles quand même. Voilà, une citerne à mazout, il y en a qui n'osent pas lever la main, vous avez mis des panneaux solaires, c'est bien. Voilà, chez nous c'est encore au mazout. Et puis on a besoin régulièrement de remplir cette citerne. De la même manière, on a besoin d'être rempli de l'Esprit. Mais ceux qui chauffent au mazout, vous avez aussi remarqué que même si la citerne est à moitié pleine ou aux deux tiers vide, eh ben, ça chauffe quand même. D'accord ? Y a pas l'énergie, elle commence pas à, ça chauffe un petit peu moins parce qu'il n'y a pas une économie d'énergie parce qu'il y a moins de fuel. Ça continue à chauffer la même chose. D'accord ? Donc, de la même manière, il y a peut-être une part de cet esprit, alors qu'on le libère et qu'on travaille avec le Saint-Esprit, il y a toujours quelque chose qui se passe. Mais le problème, c'est quand il n'y a plus. Le problème, c'est quand c'est vide. Puis là, on a beau essayer quoi que ce soit, ça ne marche pas. Hein. Moi, quand j'ai plus si j'ai plus de mazout dans ma citerne, je peux m'activer longtemps, je peux essayer de regarder un tas de choses, ça ne marche pas. Je n'ai pas de chauffage, je n'ai pas d'eau chaude, je suis bien embêté. Donc nous sommes remplis du Saint-Esprit pour en faire quelque chose et nous devons veiller à être remplis régulièrement, tout à nouveau. Et par différents textes, on voit qu'être rempli de l'Esprit, ce n'est pas une expérience unique. Peut-être certains pensent que c'est une expérience unique, mais non, ce n'est pas une expérience unique. On peut être rempli à nouveau de l'Esprit, rempli encore et encore. Et on le voit très bien, même en acte 2-4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc là, c'est vraiment le moment de la Pentecôte. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et puis, en acte 4-31, la même équipe, on l'a lu plusieurs fois dans cette série, ce verset, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » C'est les mêmes, d'accord ? Mais ils ont été remplis avant, puis ils sont remplis de nouveau. Est-ce que c'est un problème ? Non. Super, on peut être rempli et rempli et rempli encore et encore. C'est une bonne nouvelle, non ? Bon. Il arrive aussi, je pense seulement chez moi, que la citerne à mazout soit pleine, mais que ça ne fonctionne plus quand même. Il n'y a plus rien qui se passe. Et ça nous est arrivé la semaine dernière, d'ailleurs, c'était pas mal embêtant. Ça vous est déjà arrivé, on est sous la douche, et puis d'un coup, tu as l'eau chaude au coin, et ça ne vient pas. C'est là. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Ce n'était pas la quantité de mazout le problème, c'était la chaudière, c'était le brûleur, c'était la chaudière qui était sale. Mince. Et je crois aussi que pour que cette puissance de l'Esprit soit à l'œuvre, on a aussi besoin d'un nettoyage intérieur. Et toujours à la Pentecôte, lorsque cette foule est touchée par la prédication de Pierre, ils vont poser une question à Pierre, ils vont dire « Homme, frère, que ferons-nous ?» Et Pierre, comme Jean-Baptiste avant lui, comme Jésus aussi avant lui, va dire ceci, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et je crois que pour un usage efficace de l'équipement de la puissance du disciple, nous avons aussi besoin de passer par leur repentance. Et autant on peut être rempli et rempli et rempli à nouveau, autant c'est juste de venir devant Jésus et puis de faire le ménage, de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous, son œuvre de purification. Deuxième chose que j'aimerais voir ce matin avec vous, c'est qu'être rempli de l'Esprit va inspirer nos paroles et va libérer le prophétique. Alors là, vous dites, c'est quoi encore ce truc ? Libérer le prophétique. Nous sommes remplis de l'Esprit, je l'ai dit, afin d'être équipés pour le service. Et puis, on peut constater dans l'évangile de Luc et dans les actes que l'Esprit inspire. L'Esprit va libérer les bouches. Il donne des paroles de la part de Dieu, des paroles que l'on appelle prophétiques. Et souvent, lorsqu'on dit prophétique, on pense à une parole qui se réalisera dans le futur. C'est vrai, c'est un peu la définition que vous avez peut-être. Mais au sens large, en fait, le prophète est celui qui parle de la part de Dieu. D'accord ? Donc prenez une définition simple, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Et Jésus s'inscrit pleinement dans la continuité de l'Ancien Testament, parce que autant qu'il est fils de Dieu, il est aussi reconnu comme prophète. Vous pouvez le lire dans Actes 3, 22. Moïse annonçait un prophète, et c'est Jésus. Donc Jésus est fils de Dieu, mais il est prophète. Et aujourd'hui, celui qui agit comme Jésus, qui poursuit son ministère par le Saint-Esprit, est aussi un prophète. Donc il ne faut pas limiter notre vision au don prophétique d'une personne qui reçoit des paroles de connaissance pour une autre personne. D'accord ? Mais ce que j'aimerais relever ici, c'est que dans les Écritures, lorsqu'une personne est remplie de l'Esprit, eh bien, il y a une parole qui est libérée. Et ça, c'est fort, et on va juste regarder quelques exemples. Donc, lorsqu'on est rempli de l'Esprit, une parole est libérée. Et je crois qu'on en a besoin. Passer des paroles aux actes, c'est des paroles de la part de Dieu, d'accord ? C'est des paroles qui amènent l'action de Dieu. Un exemple. Voilà, je suis un peu en retard avec mon PowerPoint parce que je me suis emporté. Alors, un exemple, ça va être dans Luc 1, 41 à 42, avec Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Donc, vous vous souvenez, elle est enceinte de Jean-Baptiste. Et puis, elle va être remplie du Saint-Esprit et elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Donc, elle est remplie de l'Esprit et puis il y a une parole qui sort de sa bouche. Zacharie aussi, en Luc 1, 67, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Donc, je n'ai pas écrit la suite, mais il va prophétiser suite à être, après avoir été rempli de l'Esprit. Et puis, ça va être un chant, ça va être un passage d'adoration, de louange. Et puis, en acte 2, 4, on l'a déjà lu, hein, ils furent remplis du Saint-Esprit et donc ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et puis alors que Pierre va devoir expliquer qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, parce qu'il y a des gens qui disent « mais c'est quoi cette histoire ? Ils sont fous, ils sont pleins de vin, etc. Hein, » il va citer la prophétie de Joël qui dit « vos filles et vos fils prophétiseront ». D'accord ? Donc à ce moment-là, même s'il dit « on parle des merveilles de Dieu », il associe ça à de la prophétie. Et puis, Pierre encore, devant le Sanhédrin, acte 4, 8, il est rempli du Saint-Esprit, et puis il va parler, puis il va se défendre, puis il va faire un discours incroyable. Donc il est rempli et il parle. Et puis encore 4, 31, de nouveau, ils furent tous remplis du Saint-Esprit pour annoncer. Après, ils vont annoncer la parole de Dieu, donc ça libère la parole. Et Paul, qui est face à des faux prophètes, je vous ai mis tout les quelques versets là, de acte 13. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. » Une histoire assez radicale, là. Mais de nouveau, il est rempli du Saint-Esprit et il a une parole, et là, c'est une parole de jugement, une parole d'autorité très forte. Alors la prophétie a donc différents buts qu'on peut résumer en 6 catégories que je vous donne maintenant. Premier, c'est nous purifier et nous sanctifier. Deuxièmement, c'est de favoriser une relation intime avec le Seigneur. Troisièmement, c'est de fortifier, édifier, de réconforter. Une parole de prophétie a aussi pour but de démontrer que Dieu connaît les cœurs. Cinquièmement, clarifier une direction et encourager. Et puis, sixièmement, nous préparer à affronter les difficultés et l'adversité. Et on remarque juste là, dans ces quelques textes, si vous y prêtez plus attention, si vous y retournez, qu'il y a justement des paroles d'encouragement, il y a des paroles qui favorisent l'intimité, il y a des paroles aussi qui montrent que Dieu connaît les cœurs, il y a des paroles d'édification, de clarification qui visent à amener le peuple sur un autre chemin, bien sûr le chemin du Père, puis il y a aussi des paroles de purification, de sanctification, comme c'était le cas dans ce dernier exemple de Paul avec Elimas. Et dans toutes ces paroles, on remarque que sous l'onction du Saint-Esprit, il y a une autorité, il y a une assurance, il y a une puissance qu'une parole humaine ne peut pas avoir. Alors si je vous dis ça, c'est parce que je crois pleinement que nous pouvons, vous pouvez parler de la part de Dieu, alors que vous êtes remplis de l'Esprit. Mais est-ce que vous le voulez ? Est-ce qu'on le veut ? Est-ce que vous avez envie de parler de la part de Dieu ? Comme j'ai pris cet exemple au départ, le bouton peut parfois être déverrouillé, mais est-ce que vous avez envie de rechercher la parole de Dieu pour cette situation ? Rechercher la parole de Dieu pour cette personne ? Une parole qui fortifie, une parole qui encourage, une parole qui réconforte. Et j'aimerais vraiment vous encourager à passer des paroles aux actes. Vous vous souvenez de ce message aussi de Paul Emmes, où nous avons expérimenté aussi d'écouter Dieu, puis de mettre en pratique. Mais je crois que c'est tellement important de continuer dans ce sens. Alors que vous ouvrez votre bouche, vous pouvez avoir cette assurance que le Saint-Esprit va la remplir. Mais notre part à nous, c'est toujours la disposition de notre cœur. C'est-à-dire, est-ce que je désire cela? Est-ce que je désire appuyer sur ce bouton? Est-ce que je désire apporter une parole de la part de Dieu? Au début, peut-être, ça peut sembler pas très naturel. Mais par la suite, ça devient normal de chercher la pensée de Dieu pour une situation, pour une personne, pour une direction. Peut-être que certains, vous êtes habitués à faire cela. Mais d'autres, que c'est encore quelque chose pour laquelle c'est quelque chose de nouveau. Ça vous semble un peu pas naturel, mais je vous encourage. Vous êtes avec quelqu'un, vous prenez du temps avec quelqu'un, mais parlez, demandez au Seigneur, mais quelle est ta pensée pour cette personne? Qu'est-ce que tu veux que je lui communique? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Alors qu'elle vous parle, alors qu'elle est là, cherchez, attendez-vous au Seigneur à chaque instant. Plus on le vit, plus on passe plus d'un état de indisponible à un état disponible. Parce que des fois, avec le Saint-Esprit, c'est un petit peu ça. On est comme indisponible, et puis du coup, on change. Ok, maintenant, je suis disponible. Si tu veux me dire quelque chose, si je peux faire quelque chose pour toi, alors c'est bon. Maintenant, ça va. On est tous un petit peu comme ça. Non, non, là, il faut me laisser tranquille maintenant. Je veux rentrer. Et je prends souvent, j'ai peut-être déjà dit cet exemple ici, mais je me souviens d'une fois où j'étais dans le train. Je rentrais de Genève avec mes écouteurs, j'étais dans ma louange, j'étais très bien, tout seul, un peu fatigué, j'avais juste envie d'être tranquille. Et puis, le Saint-Esprit m'a un petit peu secoué, puis m'a dit, mais j'aimerais que tu parles à cette personne. Et puis, en fait, moi, j'étais bien dans ma petite louange, hein, dans ma bulle, un petit peu comme ça. Et puis, ben non. Moi, j'avais mis le truc indisponible, mais bon, il est venu un petit peu le relever. OK ? Voilà, donc des fois on est un petit peu dans cet état-là, mais je crois que alors qu'on est rempli de l'esprit, on est rempli et rempli, on peut même devenir plein de l'esprit pour le servir à chaque instant et en tout lieu. Alors le dernier point ce matin, c'est être rempli de l'esprit devrait caractériser le chrétien. Toujours en lien au service. En acte 6, il y a cette fameuse réorganisation au sein des disciples que vous connaissez aussi bien, certainement. Donc les apôtres ne peuvent pas tout faire, hein, ils ne veulent surtout pas négliger ce qu'est le rappel premier, c'est-à-dire la parole de Dieu et puis la prière. Et ils vont proposer que les disciples présents, donc ils rassemblent tout le monde, et puis ils proposent que les disciples qui sont là élisent parmi eux 7 personnes avec les critères suivants, donc avoir un bon témoignage, et puis être plein d'Esprit Saint et de sagesse. Bon témoignage, être plein d'Esprit Saint. Et puis plein, c'est une petite différence dans le grec, c'est pas rempli. Plein, c'est plein. Voilà, c'est pléres dans le grec, qui pourrait être traduit par complet ou par qui ne manque de rien. Donc ils ne vont pas chercher des gens remplis de l'Esprit, parce que dans tout ce qu'on voit dans les actes, on a l'impression, on remarque qu'être rempli de l'esprit, c'est plus ça a trait à quelque chose de temporaire, pour un moment précis, pour un but précis. D'accord ? Mais les gens pleins de l'esprit, ça va toucher leur personne. C'est un état qui est permanent. Alors, comprenez-moi bien, on a toujours le Saint-Esprit. OK ? D'accord ? Mais le baptême de l'esprit, c'est autre chose. Être rempli de l'esprit, c'est autre chose. Je vais leur clarifier à la fin si c'est pas clair pour quelqu'un. D'accord ? Mais donc, être rempli de l'esprit, c'est l'esprit qui est sur moi pour une action là. Et puis, être plein de l'esprit, ben, ça fait partie du caractère. C'est une personne, vous pouvez choisir des personnes qui étaient pleines de l'esprit, pleines de sagesse. Alors, la première personne qu'ils vont élire, vous savez bien, c'est Étienne. Et on va regarder rapidement à ce qui est dit de lui. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Et puis, un petit peu plus loin, juste au moment de sa mise à mort, hein, vous savez que ce sera le premier martyr, en acte 7, 55, mais Étienne, plein du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors, pas mal de versions ont traduit rempli, mais le terme grec est le même, c'est plein du Saint-Esprit. Et une autre personne qui sera qualifiée de pleine de l'esprit, c'est Barnabas, en Actes 11, 23. C'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et on peut remarquer aussi que la foi est directement associée à cette plénitude de l'Esprit. L'Esprit de Dieu était complet en eux. Il ne manquait pas. Leur foi en était vraiment impactée. Ils ont une foi complète. Des hommes, Barnabas, Étienne, sont décrits comme des hommes de foi et d'esprit. Donc le fruit en est visible. Et puis Étienne donc, a accompli des signes, des prodiges. Il a annoncé l'évangile aussi, tout en étant dans une fonction de service aux tables. Puis Barnabas, lui, il a vu beaucoup de personnes se tourner à Christ. Et puis il a fait un super travail avec l'apôtre Paul, jusqu'au fameux petit désaccord. Mais dans tous les cas, ce que je veux relever, c'est qu'ils étaient décrits comme étant pleins de l'esprit. Cela faisait partie de qui ils étaient, de leurs caractéristiques, et puis cela était nécessaire pour accomplir la tâche qui leur était demandée. Alors, sommes-nous aussi des chrétiens pleins du Saint-Esprit, pleins d'Esprit Saint et de sagesse, pleins d'Esprit Saint et de foi? Est-ce que c'est cela qu'on voit lorsqu'on me regarde? Est-ce que c'est une caractéristique de ma vie? Donc je le redis, les deux termes sont très complémentaires. Être rempli de l'esprit fait d'abord appel à l'inspiration prophétique de nos paroles et gestes en lien à notre mission d'être témoin. Être plein de l'esprit touche l'entier de notre personne, le qui on est au quotidien. La sagesse et la foi en sont associés. Et je crois que c'est encore aujourd'hui un critère important. Être plein de l'esprit va influencer notre caractère, nos relations, nos décisions. Et je crois que, alors que c'était un critère pour choisir des gens, je crois que ça doit être aussi un critère pour nous de la collaboration. On désire collaborer avec des gens qui sont pleins de l'esprit. Avant même les compétences techniques, nous-mêmes devrions être pleins de l'esprit. Souvent, on veut mettre en avant nos compétences, tout ce qu'on sait faire. Mais est-ce que je suis plein de l'esprit? Ça, c'est la meilleure des choses. Ça devrait être la première des choses. Vous êtes encore avec moi? Je conclue. Donc, nous distinguons, je vais repréciser ça pour ceux qui n'étaient peut-être pas assez clairs. Nous distinguons la demeure de l'esprit que nous devenons lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur de notre vie, est l'équipement de puissance pour le service. D'accord ? Lorsqu'on devient croyant, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Ça, c'est sûr. Mais le baptême de l'Esprit, être rempli de l'Esprit, c'est cette puissance qui vient, un équipement qui vient sur nous pour le service. C'est une expérience à part qui peut survenir à n'importe quel moment, avant le baptême, au moment du baptême, après le baptême, plus tard, on le voit dans les Actes. Il n'y a pas un moment précis, il n'y a pas un ordre préétabli. Mais ce qui est certain, c'est que Jésus envoie son esprit sur tous ceux qui choisissent d'être ses disciples. Et nous avons besoin de cet équipement pour continuer le ministère de Jésus sur la terre, pour passer des paroles aux actes. Et ce matin, j'aimerais vraiment prier. Ma pensée, c'était vraiment qu'on puisse prier pour que nos bouches soit libéré, pour que nous puissions, alors qu'on s'envoie mutuellement, alors qu'on dit, mais on veut passer des paroles aux actes, et ben pour que, alors qu'on va parler, ce soit des paroles qui viennent de la part de Dieu, que nous soyons remplis de l'Esprit pour parler de sa part. Et souvent, il y a encore, on est bloqué, on est un peu inhibé, il y a encore des choses comme ça, on n'arrive pas. Et je crois que la puissance du Saint-Esprit peut libérer nos bouches, peut transformer nos vies pour passer à l'action. Donc j'aimerais prier pour ça ce matin. Les musiciens, vous pouvez revenir sur la scène. Et puis j'aimerais aussi prier pour que nous soyons tout à fait à nouveau remplis de l'Esprit Saint pour la saison dans laquelle nous sommes. On a besoin pour cette saison maintenant. Ce n'est pas mon expérience du passé qui va me conduire aujourd'hui. J'ai besoin d'être rempli aujourd'hui pour demain. J'ai besoin d'être rempli aujourd'hui pour passer à l'action. Et puis peut-être ce matin, j'aimerais aussi prier pour ceux qui désirent vivre cette plénitude de l'esprit. Pour ceux qui disent, moi j'aimerais être cette personne pleine d'esprit, et pleine de foi, pleine d'esprit et pleine de sagesse. Alors, si vous êtes d'accord, on va juste incliner les têtes. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, on reconnaît notre besoin d'être rempli de toi, notre besoin d'avoir d'être rempli du Saint-Esprit pour faire l'œuvre à laquelle tu nous appelles, pour passer des paroles aux actes. Seigneur, on prie ce matin spécifiquement pour nos bouches. On prie que dans ce lieu, il y ait des paroles prophétiques. On prie que alors qu'on parle à des gens sur notre lieu de travail, ce ne soit pas des paroles légères, mais que remplis du Saint-Esprit tout à nouveau, nous puissions parler de ta part dans la vie de cette personne. Seigneur, que nous puissions parler de ta part sur une situation donnée. Seigneur, on voit cette audace, on voit cette passion, on voit ce zèle qui ont reçu tes disciples après avoir été remplis de ton esprit. Et Seigneur, on veut réclamer cela. On veut croire que ce n'est pas du temps passé. Et ta parole le dit, c'est pas juste pour ce temps-là, c'est encore aujourd'hui. Alors Seigneur, on veut s'attendre à toi ce matin. On veut crier, j'ai dit, on veut crier à toi. On a besoin de toi, on a besoin d'être rempli de ton esprit. Viens toucher nos bouches. Viens toucher nos bouches, Saint-Esprit. Seigneur, que le feu de ton esprit, Seigneur, soit répandu ce matin dans nos cœurs. Que nos bouches ne puissent pas juste être retenues par notre intellect ou notre culture, notre façon d'être, mais que vraiment ce soit ton esprit qui parle au travers de nous. Toujours plus. Seigneur, on veut croire et comprendre que c'est aussi un processus, mais Seigneur, on veut y entrer dans ce processus. Seigneur, peut-être qu'au début, ce n'est pas facile pour certains. Peut-être qu'ils ont dit, je n'ai jamais demandé ça au Seigneur. Une parole prophétique. Une parole de ta part. Seigneur, on aimerait que ça devienne la norme. Que tu nous revêtes de cette autorité, de cette audace pour parler de ta part. Saint-Esprit, alléluia. Remplis-nous tout à nouveau. Remplis ton église ce matin. Jésus, tu connais d'où on vient, tu connais nos défis, tu connais nos arrière-plans. Seigneur, on veut laisser tomber tout ça, on veut juste regarder à toi. Qu'est-ce que tu veux pour nous aujourd'hui? Tu désires que nous soyons remplis de ton esprit. Ça, c'est ta volonté, ça, c'est ton désir. Alors, Saint-Esprit, on te donne la place, on te donne la possibilité de le faire ce matin. Touche. Celle ou celui qui dit oui ce matin, je désire être rempli de ton esprit, je désire que tu touches ma bouche. Alléluia. Alléluia. Seigneur, s'il y a une personne, c'est des personnes ce matin qui veulent dire oui, je désire que tu touches ma bouche, je désire vivre cela, je désire être rempli. Je vous invite juste à vous lever là où vous êtes. On reste les yeux fermés, personne ne vous voit, c'est juste un engagement, c'est juste le fait de dire oui, je le veux. C'est juste une position devant le Seigneur ce matin. Est-ce que je veux être rempli de l'Esprit, que tu touches ma bouche, que tu m'utilises avec des paroles qui sont des paroles de ta part. Alléluia, Seigneur, viens, Saint-Esprit, remplis maintenant. Alléluia. Seigneur, ce n'est pas mes paroles qui comptent, c'est les tiennes ce matin. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, on t'ouvre la porte, on te dit oui, viens remplir. les vases que nous sommes. Viens les remplir. Viens libérer les bouches. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur. Seigneur, je prie que tu équipes notre Église, que tu nous renouvelles de ton esprit pour cette saison aujourd'hui. Pour passer des paroles aux actes, Seigneur. On a besoin de toi. Seigneur, je prie aussi pour celles et ceux qui désirent être plein de l'esprit, qu'ils soient vraiment remplis, que ça fasse partie d'eux-mêmes, de leur caractère. Seigneur, je suis certain qu'on désire tous cela. Être plein d'esprit et de foi, être plein d'esprit et de sagesse. Seigneur, je prie que nous puissions être connus pour des femmes et des hommes de cette trempe-là. Saint-Esprit. Moi, je suis rien du tout, ce n'est pas mes paroles qui vont faire la différence ce matin, c'est l'Esprit-Saint. Je vous invite à lui parler, à parler à Dieu là où vous êtes, à crier à lui. Je ne peux pas crier à votre place. Criez à lui. Demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Alléluia. Je vous partage juste une parole, une image qui a été reçue. Cette image de la mémoire de l'éléphant, peut-être vous connaissez. On attache un éléphant petit à une chaîne, à un pieu. Et puis, à force de se débattre, il abandonne. Il réalise bien qu'il ne va pas s'en sortir. Puis ce même éléphant grandit. Et il suffit de l'attacher avec une simple petite cordelette et il ne part pas parce qu'il s'est tellement débattu petit qu'il est certain qu'il ne peut pas s'en sortir, il ne va pas partir, alors qu'il lui suffirait d'un bon coup de patte pour se libérer. Et la pensée qui était reçue, c'était que parfois avec tout ce qu'on a entendu, tous les enseignements religieux qu'on a reçus, on est un petit peu comme ça avec tout ce qui est en question du Saint-Esprit. Il y a toujours une peur, des excès. Et on veut briser ça dans le nom de Jésus maintenant. On veut dire, esprit religieux, tu n'as aucun droit dans ce lieu. Tu n'as aucun droit sur nos vies. Tout ce qui a été inculqué petit, mais qui était faux, qui n'était pas de toi. On demande que maintenant, Saint-Esprit, tu viennes renouveler nos pensées. Tu viennes renouveler nos cœurs. Tu viennes changer nos regards dans le nom de Jésus. Pour que nous puissions comprendre tout à nouveau ce que tu as désiré faire, ce que tu désires faire encore aujourd'hui avec nous dans ce lieu. Seigneur, on refuse de penser que l'action de ton esprit, être rempli de ton esprit, c'est pour une élite. On croit que c'est pour nous aujourd'hui. Seigneur, encore, et on l'accueille. Alléluia, alléluia. Si ça correspond pour des gens, vous savez que c'est aussi ce que vous avez entendu, vous avez été enseigné, vous n'arrivez pas à vous en défaire, mais faites-le maintenant. Dites, je refuse ça dans le nom de Jésus, je ne veux plus ces schémas de pensée, je les brise dans le nom de Jésus et je veux accueillir l'œuvre de l'Esprit tout à nouveau dans ma vie. Alléluia, alléluia, Saint-Esprit, merci. Alléluia, ouais, merci, on peut applaudir le Seigneur, c'est vrai, pour qu'il se fait, le Saint-Esprit pour ce qu'il fait. Alléluia. 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 Il nous dépasse, il nous surprend par son œuvre. Et je prie qu'il continue pleinement son travail ici et dans nos vies. Et je reviens, je termine simplement ce message en vous disant qu'on avait commencé cette série avec ce but-là. On désirait être ensemble des témoins qui attestent encore aujourd'hui, dans ce monde, dans cette ville, dans cette société, que Jésus est vivant. Cela par nos actions, par l'œuvre de Jésus dans nos vies. Et j'aimerais simplement conclure cette série en vous disant, mais le but, c'est pas que ça s'arrête. D'accord ? C'est pas de la série de messages à terminer qu'on tourne la page. Ça doit rester. Ça, c'est ça qu'on veut. Ça doit vraiment, on doit garder ça tout le temps devant nos yeux. J'aimerais juste vous rappeler tout ce qu'on a vu. On a vu l'importance d'écouter, de s'adapter. On a vu notre besoin d'audace, besoin d'avoir un cœur de serviteur, d'écouter la voix de Dieu et d'obéir. On a besoin d'unité. On a besoin de passion, on a besoin de vivre le discipulat, on a besoin de disponibilité pour répondre à l'appel. On a besoin d'être rempli de l'Esprit. Alors je vous invite, en tout cas, si vous n'avez pas eu le temps, pas pu être là, il y a tous les messages qui sont disponibles sur Internet. On va faire un petit, comme je l'avais annoncé, on va vous donner aussi un PDF, ceux qui le désirent. Vous pourrez juste vous dire, il y aura le PDF des résumés de messages. Puis vraiment, ma prière, c'est qu'on continue à avancer dans ce sens en Église. Hein, que chacun puisse poser des pas concrets, quotidiennement, en lien avec sa vie spirituelle. Puis j'avais noté là sur ma feuille, on refuse d'être des chrétiens stériles. On veut être des disciples porteurs de fruits. Amen ? Amen. Moi je vous le dis encore, je suis vraiment heureux, fier d'être votre pasteur, heureux de voir cette église se tourner vers l'extérieur. Puis je m'en réjouis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors que le Seigneur vous bénisse dans cette suite de dimanches.